With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et si le stress n'était pas forcément mauvais et que c'est avant tout une question de dose et de gestion? Nous en parlerons aujourd'hui avec mon invité, Raphaël Oma. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez le podcast, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez aller plus loin avec des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion, championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Bien entendu, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui donc, je vous propose de rencontrer Raphaël Oma. Raphaël est préparateur mental, il accompagne principalement des sportifs professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs en développant leur qualité mentale. Il est aussi sportif, enseignant, formateur, podcasteur et auteur d'un livre très intéressant, 8 clés pour gérer son stress comme les champions. Ensemble, nous avons parlé de ce fameux stress qu'il appelle affectueusement Fernand. Et pour Raphaël, Fernand est un peu comme un grand-père protecteur. Il nous veut du bien, cependant il peut devenir oppressant, têtu, vieux, étouffant, s'invitant chez nous sans sonner à des heures parfois inappropriées. Pourtant, il ne veut que nous préserver et nous protéger. Ça, c'est un extrait du livre de Raphaël. Alors, que faire de ce stress? À quoi sert-il? Comment le gérer? Et pourquoi ce stress peut être bon? Dans cet épisode, nous parlons aussi beaucoup de motivation et de l'importance d'avoir plusieurs projets. Je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Raphaël. Allez, c'est parti. Bonjour Raphaël.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Écoute, je vais très bien. Je vais très très bien. On est lundi matin quand on enregistre et on est au début d'une chouette semaine, donc tout va bien.
Oui, alors chouette semaine. Tiens, pour moi aussi. Alors je le dis parce que comme ça va être diffusé un peu lointain, on est le 26 septembre. Moi, je suis à 5 jours de mon premier 24 heures qui sera mon 24 heures pour fêter mes 46 ans. Et toi, pourquoi c'est une chouette semaine qui s'annonce?
Écoute, bah, c'est une chouette semaine parce que tu sais, on est encore vraiment dans l'effervescence de la sortie du livre. Je vais faire une conférence très sympa, je pense, mercredi auprès d'étudiants de l'ESCA à Lyon en présentiel et puis en visio pour les autres campus. Et puis parce que à partir de vendredi soir, je réunis les membres de mon réseau, du réseau M2P, qui sont donc des préparateurs mentaux qui se sont formés avec moi. Donc on passe le vendredi, samedi, dimanche et une partie du lundi ensemble. Donc écoute, voilà, une chouette semaine qui arrive.
Préparation mentale, voilà, le mot est dit. Préparateur mentaux, c'est quoi ton métier exact en fait?
Alors, mon métier, j'ai l'impression que j'en ai plusieurs, en fait. Préparateur mental, pour moi, un peu le pendant du préparateur physique qui va évaluer des qualités physiques, évaluer des exigences sportives qu'on a spécifiquement à notre sport ou peut-être à notre poste. Oui. Va évaluer donc un état des lieux de départ du sportif. Et puis, entre l'état des lieux de départ, les exigences du poste, les objectifs, va mettre en place une planification de travail. Le préparateur mental fait pareil. Donc, sur ma casquette préparateur mental auprès de sportifs, voire d'entrepreneurs, première étape, ça va être d'évaluer des habiletés mentales. Voilà, de quelle façon est-ce que la personne se concentre, de quelle façon la personne gère sa confiance, gère ses émotions, arrive à s'activer ou à gérer son énergie typiquement pendant un 24 heures. Et puis, en tenant compte de ses ambitions, des spécificités de sa vie, on va mettre en place une planification de travail validée avec la personne. Et ça, on pourrait dire que c'est le gros de mon métier, c'est d'évaluer, de proposer des protocoles d'évaluation des habiletés mentales. Il existe aujourd'hui des tests qui sont validés scientifiquement. Et puis après, bah, c'est un travail d'entraînement mental. Et puis à côté, j'ai une autre casquette où je forme. Je forme à la fois parce que je suis responsable d'un DU, d'un diplôme universitaire en prépa mentale, responsable pédagogique du DU de Poitiers, donc qui se fait physiquement à Angoulême, mais on est rattaché à la fac de Poitiers. Et puis mon entreprise, comme je disais tout à l'heure avec M2P, Mental de Pro, on est aussi organisme de formation et on forme d'autres personnes.
Et donc, tu as une actualité aussi, c'est un livre, 8 clés pour gérer son stress comme les champions. Alors, dès que je l'ai vu, moi, j'ai plongé dessus parce que je me suis dit, c'est quand même un sujet, c'est le sujet. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet majeur dans la société, qu'on soit sportif, pas sportif, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, quelle que soit la casquette qu'on porte, le stress, c'est un truc, on y est tous confrontés. Et on a tous une gestion totalement différente de ces situations-là.
Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'on est de plus en plus attentif justement aux éléments liés au stress, à l'anxiété. On parle aussi beaucoup de burn-out, et ce qui peut être une conséquence d'un stress chronique important. Et du coup, il y avait une vraie volonté avec la maison d'édition Le Duc, si tu veux, de partager à la fois des outils qu'on pressent ou qu'on imagine réservés à des sportifs de haut niveau. Et dans le même temps, je constate notamment depuis le premier confinement que nous sommes plus sensibles, il me semble, à nos états internes, à voir comment est-ce qu'on gère nos ressources. Pour certains, c'était génial d'être confiné, pour d'autres, c'était horrible. Et de voir aussi comment est-ce qu'on peut jouer sur notre niveau d'anxiété, sur le fait de retourner au travail, etc. Et puis, pour moi, la gestion du stress, c'est aussi une affaire hyper importante dans la vie personnelle. C'est-à-dire que l'idée est de transmettre, quand on est préparateur mental, plutôt des outils en lien avec la vie sportive, la vie professionnelle. Et je me suis rendu compte à plusieurs reprises que des outils donnés dans un contexte professionnel étaient réutilisés par les personnes chez elles. Et pareil, pendant le premier confinement, on avait aussi une explosion de tensions et de violences intrafamiliales. Alors, je dis surtout pas que le livre va tout solutionner, c'est pas le propos du tout. Mais par contre, si je sais un peu mieux gérer mon stress quand je suis au boulot, peut-être que je le gère aussi un petit peu mieux à la maison, et peut-être que je suis un meilleur conjoint, un meilleur parent, un meilleur voisin, peut-être que je klaxonne plus 15 fois quand je suis dans un embouteillage. Et ça peut, on se fait du bien quand on gère mieux son stress, mais on fait aussi du bien aux autres.
Ouais, alors tiens, si tu pouvais arrêter de faire klaxonner les gens dans la rue dès qu'ils ont un truc qui est au milieu, qui passe au milieu, moi ça m'arrangerait beaucoup. Non mais après, enfin, c'est vrai que le stress, on va en parler, mais c'est vrai que quand tu regardes les gens quand même autour, c'est la course à la moindre seconde, la minute. Alors, les parents le matin qui amènent les enfants à l'école, c'est hallucinant de voir à quelle vitesse il y en a certains qui vont, etc. On voit que c'est la course permanente. Et on se dit, dès le matin déjà, ils sont chargés d'un stress qui va faire... En plus, je pense qu'augmenter au fil de la journée. La question que je m'étais dit, c'est le stress, il a été conçu par la nature pour nous aider à survivre. Mais est-ce qu'en fait, il n'est pas en train de... Quand il y en a trop, il ne nous tue pas, en fait.
Si, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. J'aime bien l'image, là, quand tu dis que les parents arrivent à l'école en étant un peu pressés. Des fois, moi, j'ai cette image de l'enfant qui est derrière le parent, mais l'enfant, il fait le drapeau, en fait. Tu vois, tu as l'impression, limite, que le parent, il est presque que le cerf-volant, et l'enfant, il touche presque plus seul tellement le papa ou la maman marche vite devant. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, moi, tu sais, dans le livre, je me suis amusé à appeler mon stress Fernand. Fernand, qui est un vieux prénom, un joli vieux prénom, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Fernand jeunes. Alors, il peut y en avoir, bien entendu, mais ce n'est pas un prénom majoritaire. Et alors, pourquoi Fernand ? Justement, parce que notre cerveau, en effet, a cette capacité à être stressé. Et tu l'as dit, il y a une époque où c'était vital d'être aux aguets, d'être tendu, parce que tu te ratais une fois, tu n'avais peut-être pas l'occasion de te rater une deuxième fois. Aujourd'hui, où les enjeux vitaux sont très très rares, et heureusement, en tout cas dans une société occidentale normale, voilà, on n'a pas peur de se faire dévorer tous les jours, même quand on va faire son footing. Pour autant, notre cerveau fonctionne encore de la même façon. Et là où il avait la capacité d'être stressé en se disant où est-ce que je vais dormir ce soir? Est-ce que l'abri que j'ai pris est aussi finalement l'abri d'un ours et il faut vraiment que je sois aux aguets? Aujourd'hui, on a le même stress en se disant, je vais peut-être poser mon enfant à l'école à 8h11 au lieu des 8h07 qui étaient prévus. Et du coup, ça me décale tout parce qu'après, dès 8h10, il y a plus d'embouteillage, etc. Et donc, le problème, encore une fois, n'est pas le stress, mais l'excès de stress, notamment dans l'incapacité que nous avons quand nous sommes en stress chronique à nuancer et à relativiser. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout devient important à la même hauteur quand on est stressé. Et je suis convaincu que c'est très, très préjudiciable pour notre santé mentale et aussi, je le disais un peu tout à l'heure, notre santé sociale, c'est-à-dire dans notre capacité à interagir sereinement avec les autres.
Mais tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai, je pense que je ne vais pas vérifier l'étymologie, mais j'ai souvent lu que à l'origine, le mot priorité était un mot singulier et n'existait pas au pluriel, et que maintenant, en fait, on est rempli notre quotidien de priorités, ce qui n'est pas logique, puisque si on a plusieurs priorités, mais en fait, on a aussi plusieurs casquettes, et on va en parler parce que on a parlé de parents, on a parlé d'entrepreneurs, de salariés, on pourrait parler de sportifs parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que dans toutes les casquettes, on a tout un tas de priorités qui sont des fois compartimentées, des fois pas tant que ça, mais dans tout cas, tout se mélange. Et à un moment, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire que même un sportif de haut niveau, parce que quand tu accompagnes des champions, même eux, on pourrait se dire leur priorité, c'est de bien jouer le samedi. Et pourtant, il y a plein d'autres trucs qui peuvent rentrer dans le fait que ça va leur mettre du stress et que s'ils ne préparent pas si sereinement que ça certains matchs, certaines compétitions, et qu'en plus, il y a des échéances qui sont dures à gérer sur le plan mental.
Oui, tu as tout à fait raison. En fait, tu sais, tout est question d'équilibre. Alors, c'est Étienne Klein qui dit qu'il faut un engagement sans modération des gens modérés. Et je crois que c'est un petit peu pareil dans notre vie perso. J'entends que si on a plein de priorités dans différents domaines, c'est problématique. Par contre, moi, je milite très souvent auprès des sportifs pros que j'accompagne, auprès des entrepreneurs que j'accompagne, pour qu'ils soient dans une logique de double ou de triple projet. Donc, on pourrait dire, ouais, mais c'est contradictoire, quoi. Justement, on vient de se dire qu'on avait déjà trop de priorités, trop de choses en tête, on parle beaucoup de la charge mentale. Là où, typiquement, sur des composantes comme le sport de haut niveau ou l'entrepreneuriat, où bien souvent les individus qui sont dans ce type de projet ont du mal à restreindre, pour certains, l'engagement horaire. Tu vas souvent entendre, tu sais, on parle de workadisme, les addicts au travail, tu vas souvent entendre des entrepreneurs qui vont dire « Oui, mais là, moi, ces temps-ci, je fais des semaines de 80 heures de boulot, etc. » Des sportifs aussi peuvent, des fois, et des sportifs peuvent se dire « Plus je m'entraîne, plus j'optimise mes chances de réussite. » Or, il n'y a pas de relation linéaire entre le travail et la réussite. Il n'y a pas de relation linéaire entre la motivation et la réussite. Il faut un niveau optimal de motivation, mais pas un niveau maximal de motivation. Si je suis trop motivé pour réussir, ça devient une interférence. Il y a trop de tension, il y a trop d'enjeux. Et donc, l'intérêt d'avoir un double ou un triple projet, c'est parfois de savoir relativiser, savoir nuancer, de savoir prendre du recul. Moi, j'ai longtemps été prof en école d'ingénieur. J'aime beaucoup apprendre, j'aime transmettre, j'aime parler. Alors bon, sur kilomètre 42, on va pouvoir parler un petit peu. Mais du coup, j'ai encore jamais vu un sportif pro reprenant ses études tout en ayant conscience de l'importance du projet sportif. Là, je vais parler de footballeurs à qui j'ai pu dire « Mais tiens, tu sais, tu pourrais juste faire, je ne sais pas moi, 5 heures d'anglais dans la semaine. Je ne sais pas si tu serais moins bon footeux. » On peut prendre des cours à distance, etc. Et en fait, pour tous, ça leur apporte plutôt une bouffée d'oxygène, une respiration. Là où le foot ou le sport peut te prendre la tête H24, si tu as un autre projet minime, mais qui te fait plaisir et qui te permet de changer justement de casquette ou de domaine, ça t'apporte aussi une respiration et je pense que c'est plutôt salutaire.
C'est marrant parce qu'en fait c'est un peu l'inverse de nous, enfin de nous. Alors moi je sais pas trop dans quel cas je me mets, mais de ceux qui écoutent le podcast, qui ont un travail et qui sont plutôt dans le truc de dire je vais prendre 4, 5 heures, 6 heures dans ma semaine pour faire du sport, pour préparer des objectifs, on est plutôt dans cet équilibre là. Moi je dis que je suis à cheval parce que je sais plus trop en fait. Je dis que je suis sportif pro à ma manière, semi-pro, je sais plus comment, mais la semaine où je cours 13 heures ou 14 heures, il y a un moment donné, je sais plus quelle est mon activité principale, surtout qu'après, je fais 12 ou 13 heures, enfin, pas autant, mais 6, 7 heures de podcast des fois dans la semaine. Donc, je me dis là, j'ai vraiment la cassette qui va être 42, le coureur à fond. Mais il y a plein de gens comme ça, qui sont comme ça, qui se disent, bon, bah, moi, j'ai 5, 6 heures dans ma semaine. J'ai envie, je vais courir, je vais faire du sport, du triathlon, du foot ou n'importe quoi. Et qui, au départ, ils le font quand même pour leur bien-être. Après, il y a un esprit de compétition, hein, pour revenir. Mais l'échéance sportive peut aussi créer un stress. Et moi, je me rappelle au marathon de Paris, quand je fais le marathon de Paris, le gars à côté de moi, je le raconte souvent, il se met à pleurer avant le départ. Donc, il y a les émotions qui remontent. Moi, le stress que j'avais de dire est-ce que j'ai les bonnes chaussettes pour faire ce marathon, trois jours avant, la question de se dire mais est-ce que j'ai les bonnes chaussettes, est-ce que je vais manger le bon truc, est-ce que je vais pas louper le ravito, est-ce que je vais être à l'heure au départ de la course. Enfin, c'est vrai qu'on a tout un tas de choses qui rentrent, qui sont vraiment parasites, même sur une activité, on pourrait dire, on fait du sport pour se détendre, quoi, ou pour la forme.
Ouais, t'as tout à fait raison. C'est vrai que cette pratique sportive peut générer du stress. En même temps, je pense qu'on est bien souvent plus épanoui quand même en ayant ce stress et cette activité. Et après, tu sais, pour le stress, j'aime à dire, c'est pas moi, hein, je synthétise comme ça, qu'en fait, il nous faut deux ingrédients pour être stressé. Il nous faut un enjeu important. Enjeu important, c'est-à-dire que la fin de cette histoire est importante pour moi. Voilà, qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Ça compte. Et deuxièmement, pour avoir du stress, il faut que je me pose des questions sur mes ressources. Est-ce que je doute, voilà, à tort ou à raison, ça n'a pas d'importance, mais je doute, je me questionne sur la capacité de mes ressources à faire face à cette situation. Donc, je suis dans quelque chose d'important et je ne suis pas sûr d'être au niveau des exigences de cette situation. À partir de ce moment, il peut y avoir du stress. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que des fois, même un DG, un cadre, une cadre, peu importe, quelqu'un qui est dans son entreprise, tout va bien, on pourrait se dire, non, mais attends, et tonton, où est le voisin, et papa, enfin, je veux dire, tu vas juste faire un marathon, c'est un loisir, bah, détends-toi, bah, zéro stress. Mais justement, pour ces personnes, et pour toi, et pour les personnes qui écoutent ton podcast, bah, ça peut être quelque chose d'hyper important, et que moi, je vais respecter et valoriser vraiment. C'est quelque chose aussi qui va venir titiller notre confiance en nous. Est-ce que j'ai la capacité, comme je le disais, mais c'est aussi quelque chose qui vient nourrir, questionner l'estime de nous. Est-ce que j'ai la valeur? Est-ce que j'ai suffisamment de valeur pour? Et le fait déjà de se lancer dans un kilomètre ambitieux, dans un Ironman ou n'importe, peut-être qu'on se questionne sur la capacité, mais pour beaucoup, ça va dans tous les cas nourrir l'estime de soi, d'avoir osé, l'estime d'avoir enclencher cette démarche, de s'être lancé dans ce projet ambitieux. Et je trouve que c'est très, très sain pour notre santé. Et donc, ça peut générer du stress parce qu'il y a de l'enjeu.
Et c'est vrai. Et tu as raison. Parce que moi, l'enjeu de mon marathon, ça fait quand même 2 ans que j'y pensais. J'ai eu plein de gens où on a des parcours. Alors moi, une perte de poids, mais beaucoup de gens perdent de poids. Mais il y en a, c'était la maladie. D'autres, c'était se prouver qu'ils voulaient faire des choses. Et donc, c'est vrai qu'on met tous de l'enjeu, finalement, sur... Parce que sinon, on s'entraînerait pas s'il n'y a pas d'enjeu. L'engagement dans une activité, il faut qu'il y ait un petit peu d'enjeu. Il faut qu'il y ait de l'enjeu pour qu'on passe des heures à s'entraîner.
Très clairement, tu sais, hein, on parle de motivation. Motivation, ça vient de movere, ça veut dire mouvement. Quand on est motivé, il y a une intensité et une orientation de l'action. Donc, orientation de l'action, ça veut dire que tu es capable de discriminer ce que tu veux faire de ce que tu ne veux pas faire. Orientation de l'action sur un marathon, je suis capable d'aller courir, même si dans ma maison il fait 19 degrés, puisque maintenant c'est la température qu'il nous faudra, et que dehors il fait zéro, j'y vais. Même si chez moi il y a un petit feu de cheminée et que c'est sympa et que tout le monde est en train de se faire des chamallows grillés, je suis capable de sortir. Donc quand je suis motivé, orientation de l'action et intensité de l'action, intensité dans le moment et dans le temps. Donc en effet, si je décide de m'engager sur un marathon, c'est que c'est important pour moi. C'est que le bénéfice est supérieur, au coût. Oui, ça peut des fois coûter d'aller courir sous la pluie. Oui, ça peut peut-être coûter de rater un petit moment, peut-être avec sa fille ou avec ses enfants ou avec son chien, même si bon, le chien peut venir courir avec nous. Mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que le bénéfice est plus important que le coût. Et d'ailleurs, on voit bien les personnes qui perdent de la motivation, bah, c'est qu'elles n'ont plus de clarté sur le bénéfice. Mmh. Elles commencent à se dire, non mais attends, c'est dans trop longtemps, ou les résultats que j'espérais n'arrivent pas. On parlait de perte de poids ou d'autre chose, quel que soit le sport, mais si je n'arrive pas à percevoir les résultats positifs, certains perdent très très vite la motivation.
Et tu sais que c'est quand même, moi dans la communauté du Hamster Training Club qui est liée au podcast, je pense que la question de la motivation, et c'est pareil sur Instagram, je crois que la question de la motivation, c'est celle qui revient une fois sur deux. Chaque fois qu'on me pose des questions, quasiment une fois sur deux, c'est la motivation. Et alors, les gens, en fait, ne le définissent pas comme étant un problème de motivation, mais plutôt comme, en fait, on voit que c'est de la motivation, c'est des ingrédients de la motivation qui, des fois, sont manquants. Alors, tu l'as parlé, il y a le progrès, le plaisir, pourquoi je fais ça. On perd, moi, même à un moment donné, moi-même, j'ai dit, mais pourquoi je fais ça? Maintenant que j'ai couru mon marathon, pourquoi je vais courir? Et ça, c'est vrai. Je ne sais pas si tu as suivi des gens, des marathoniens. Alors, les champions, c'est un peu différent, mais moi, le blues du marathonien, c'est tu te prépares pendant des mois et des mois, tu fais ton truc, le lendemain, d'un coup, tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'objectif, etc. Et ça, c'est un piège, un vrai piège. Parce que justement, tu perds de dire, mais qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a plus d'enjeu, pourquoi je vais m'entraîner? À quoi ça sert, etc. Et j'ai vu des gens même qui s'arrêtaient presque de bouger, de courir, alors que pourtant, ça leur faisait du bien. Mais d'un coup, parce qu'ils savent plus.
Mmh, ouais, ils ont coché la case, quoi. Ils ont coché la case. C'est bon, le marathon est fait. On était orienté juste sur cet objectif de faire le marathon. Mmh. Et du coup, en effet, certains vont perdre un petit peu le fil. Pour éviter ces moments peut-être un petit peu trop bas, on pourrait dire de dépression, en tout cas où on baisse la pression, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un état dépressif. Mais justement, je trouve que la notion de double ou de triple projet peut être très, très importante. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, si je me vois quasiment, même si on n'est pas forcément dans du sport professionnel, mais je me vois quasiment que comme un coureur, comme un marathonien, bah le jour où j'ai fini mon marathon et que je sais que je ne vais a priori pas en faire un autre le week-end prochain, bon, bah, entre guillemets, qui suis-je, que fais-je, comme dirait l'autre. Et si là, j'ai un double ou un triple projet, bah, je peux justement partir sur mon autre projet où en même temps, j'aime bien gratter un peu ma guitare ou faire un peu de poterie ou davantage randonner avec ma famille. Encore une fois, entre guillemets, peu importe, on voit l'idée. Et le fait d'être sur un autre projet salutaire qui me nourrit, qui me fait du bien également, m'éloigne de mon projet de course à pied et peut me permettre de recréer aussi après du manque et de l'appétit. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve, d'avoir différents projets. Moi, dans ma pratique même professionnelle, j'aime beaucoup le coaching, j'aime beaucoup la prépa mentale. Je suis aussi très content d'avoir des moments où je vais me dire, tiens, là, pendant une semaine, je vais à Poitiers, enfin, ou à Angoulême, pour faire des cours. Ça va me nourrir et ça va recréer un manque peut-être du coaching ou de l'accompagnement, là où des fois tu vas te dire, un peu comme tu disais tout à l'heure, tiens, cette semaine j'ai fait 6 séances ou 10 séances, bon, bah, ça, entre guillemets, ça me saoule un peu, avec des gros guillemets. Mais c'est cool de créer des fois des pauses, du manque, pour avoir envie d'y retourner. Mm. Je pense que c'est pareil sur la course à pied ou une pratique sportive.
Bon, moi je cours tous les jours, mais pas toutes les doses. C'est ça qui est drôle, c'est que les gens, ils ont l'impression que quand je leur dis je vais courir tous les jours, ils disent ouais, mais tu fais combien de kilomètres? Et je leur dis, mais des fois c'est juste sortir, et notamment parce que ça évite de rester dans la sédentarité, et puis ça me libère d'une partie du stress, en fait. C'est-à-dire que il y a une époque, je me suis rappelé, je devais rédiger des articles pour des clients, et puis tu sais, t'as le moment, t'es charrette, tu dis ouais, je vais être en retard, etc. Et là, le stress paralyse quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu réfléchis plus comme il faut quand tu es trop stressé. Et je disais, hop, je vais courir, je vais marcher un peu, je reviens, ça va couler de tout seul derrière. Et ça, c'est un effet qui est vraiment libérateur, j'ai envie de dire, de dire, bon, je change de sujet pendant un moment, hop, je prends une autre casquette peut-être un certain temps, et puis quand je reviens, je suis dans un autre état, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Oui, oui. À la fois, dans ton cas, là, tu changes de sujet et tu changes aussi vraiment d'activité. Et typiquement, tu mets le corps en mouvement. Quand on court, a priori, quand on a la chance de courir sur les deux pieds, donc on mobilise aussi davantage le cerveau. Et ouais, c'est pas juste changer d'activité. Je bosse sur l'article que je dois faire pour Pierre et j'arrête, je passe à l'article que je dois faire sur Martine. Le fait là de partir courir aussi te fait beaucoup de bien et t'as tout à fait raison. Tu sais, moi, il y a plein d'idées que j'ai trouvées de développement de mon activité pro que j'ai trouvé en courant. Et je pense que Je dis des fois en rigolant vraiment, mais je veux dire, le sport, la course à pied, je dis des fois, m'a rendu riche, mais c'est pas riche, je suis pas millionnaire, c'est pas ça, mais en tout cas, j'ai eu plein d'idées de formation, d'ateliers animés que j'ai trouvé en courant. Et comme tu le dis, des fois, c'est pas en étant derrière son PC 8 heures de suite qui va nous permettre d'être le plus efficient.
Mais moi, je fais des blablarons, j'ai même fait des épisodes en courant. Et il y a un défaut, c'est que quand je pars en cours, mais ça marche aussi en marchant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que le flux d'idées ne s'arrête plus du tout. Et je me retrouve des fois à parler pendant 45 minutes en me disant, mais ah, punaise, mais de quoi t'as parlé et tout. Et même à la fin, et je sais pas, hein, des fois, je me rappelle même plus de quoi j'ai réellement parlé. J'ai cet enregistrement là, ce truc qui tourne comme ça. Si je réécoute pas, mon cerveau il est parti dans plein d'endroits. Et ça, c'est la magie du cerveau, hein, qui fait des connexions, des liens, tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'était ce fait de bouger, et ça a été prouvé par la science, hein, que quand on bouge, ça fonctionne différemment et que c'est normal qu'on ait des idées, qu'on ait des nouvelles connexions qui se fassent, quoi.
Clairement, on est plus créatif.
Alors, moi, dans ton livre, je me suis plongé dedans. J'ai pas tout à fait fini, hein, je dois te dire, parce qu'il y a des exercices, il y a des trucs. J'ai fait connaissance de Fernand. Je trouvais, c'est bien Fernand de discuter avec Fernand et tout. Je me suis dit, j'avais oublié de te poser la question d'ailleurs, savoir si ton Fernand il allait bien là tout de suite ou si ton Fernand était pas, c'était pas un peu agité avant l'enregistrement.
Écoute, non, là, ça va. Tu sais, un des outils que je présente aussi rapidement, qu'on appelle l'inoculation au stress, c'est-à-dire d'être régulièrement, de prendre des rendez-vous avec Fernand. Donc, Fernand, c'est notre stress. J'aime bien le fait de pouvoir le personnifier, un peu d'imaginer un personnage. Là, en prenant régulièrement des rendez-vous, c'est vrai que ces temps-ci, je parle souvent du livre. Et donc, voilà, on est sur une petite inoculation. Donc là, je pour avoir suivi, je sais que tu es très sympathique, j'avais un peu écouté le podcast et tout. Donc non, là, Fernand n'était pas trop réveillé. Il l'était un petit peu plus. J'ai fait une conférence il y a 3 jours là, devant 70 personnes à Cluny. Bon, là, par exemple, il était un peu plus que maintenant où je suis dans la maison, enfin, chez moi, je discute avec toi, je suis assis, enfin, c'est plus pépère. Mais j'ai bien un Fernand qui vient me voir de temps en temps et c'est très bon signe, encore une fois.
Ouais, bon, et moi, j'ai jamais mangé personne. J'ai personne à. Non, c'est vrai, hein, et tout. Des fois, j'ai des invités qui me font pleurer d'émotion et j'ai des poils qui se dressent parce qu'il y a des belles histoires. Mais pour l'instant, j'ai jamais mangé personne, ne serait-ce que parce qu'à travers l'écran, c'est pas très facile. Non, mais tu sais, j'ai enseigné pendant 10 ans à la fac, quand même, et j'essayais de baisser le niveau de stress de mes étudiants quand ils devaient poser une question. Tu sais, ces moments où tu attends d'avoir de l'interaction, moi, j'ai enseigné pour avoir de l'interaction et tout, mais tu les sentais super stressés, super, tu vois, difficile d'accès et tout. Et moi, je faisais tout pour dire, on peut discuter, on peut échanger sur plein de sujets, on peut parler de plein de choses. Donc, souvent, je leur parlais d'ailleurs du sport et pour voir s'ils aient du sport. Je sais pas si tes étudiants, tu leur dis de faire du sport, justement, dans ces histoires de projets, de double ou triple projet. C'est-à-dire de dire, toi, c'est peut-être des étudiants un peu spéciaux parce qu'en préparation mentale, ils sont, j'imagine, un peu sportifs, ils viennent peut-être de STAPS, de choses comme ça, mais c'est des conseils que tu leur donnes de dire, ouais, bon, il n'y a pas que les études, il y a ça, il faut cumuler plusieurs casquettes.
Ouais, très clairement. Très clairement, tu sais, j'ai été, moi, pendant 9 ans, prof en école d'ingénieur. J'étais prof de PS. J'étais prof de PS. Avant ça, j'étais prof dans le secondaire de manière classique. Et quand j'étais donc prof en école d'ingé, c'était une école d'horticulture et de paysage. Donc, on était assez loin de l'univers STAPS. Par contre, moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que c'était des jeunes qui adoraient la nature. Quand tu es étudiant en paysage et en horticulture, ils aimaient bien avoir des potagers, du maraîchage. voilà. Donc, déjà, ils avaient une appétence pour être dehors. Ça, c'était cool pour les activités. Et après, si tu veux, je leur disais exactement la même chose que j'aurais pu te dire ou ce que toi, tu disais quand tu parlais de la rédaction d'articles pour certains de tes clients. C'est-à-dire que pendant les périodes de partiel, je voyais des fois un peu moins d'étudiants à la S. Je pouvais avoir des étudiants ou des étudiantes qui venaient me demander en gros s'ils pouvaient pas sécher le cours de PS parce qu'ils avaient de l'EPS obligatoire jusqu'à la fin de la licence pour aller réviser. Et je leur disais, mais en fait, tu seras beaucoup plus efficient après tes 2 heures de PS. Viens courir avec nous, viens te marrer un peu. Parce que des cours, pareil, alors Moi, j'ai mangé une fois une personne, mais vraiment, c'est une personne qui l'avait cherché. Mais à part cette personne, j'ai jamais mangé personne. Non, je peux dire. Mais du coup, je dis voilà, viens plutôt te marrer un peu avec nous. On faisait des activités comme du flag football. C'est un peu comme du football américain, mais il n'y avait pas de plaquage. On doit juste attraper un drapeau. On faisait un sport que j'adore qui s'appelle le kinball. Je leur faisais aussi du softball. Enfin, plutôt donc des jeux coopératifs. L'idée n'est pas d'être le Léo Messi de l'équipe et puis de pouvoir tout faire tout seul. C'est des sports où tu peux rien faire sans les autres. Et du coup, oui, j'ai toujours eu ce discours de dire pratiquer, bien entendu. Puis, j'essaye d'être congruent, d'être aligné avec ça. Donc, je veux dire, y compris, moi, il y a des moments, si tu veux, où j'explique aussi aux préparateurs mentaux que dans nos métiers où on donne beaucoup d'attention à l'autre quand on est en séance, se préserver et prendre du temps pour soi fait partie du process. Ouais. C'est-à-dire que quand moi je vais courir une heure ou quand je vais me poser, j'adore aller me mettre dans les rivières ou dans les lacs, y compris en hiver. Mais quand je vais me poser 10 minutes dans une rivière au mois de novembre, je me fais du bien, mais ça me permet aussi d'être un bon professionnel, de prendre du temps pour moi. Donc je pense que c'est important d'avoir ces respirations, ces bouffées d'oxygène, encore une fois, dans sa journée, dans sa semaine. Donc ouais, je conseille, y compris aux étudiants qui font le début de prépa mentale, d'avoir une activité sportive et de d'entretenir leur passion, quoi.
Attends, tu viens de me dire que tu vas te tremper dans des rivières au mois de novembre?
Ouais, bien sûr. Tu sais, j'avais mis une petite vidéo, même, et puis peut-être qu'un jour on devrait bien pouvoir trouver un lac entre la Savoie et puis l'Auvergne. Mais si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas très bon pour gérer le stress chronique. On n'est pas fait pour être stressé constamment. Par contre, on est visiblement assez bon pour gérer des pics de stress. Et typiquement, d'aller se baigner quelques minutes dans une eau à 5 degrés en hiver va décharger des hormones de stress, puis des hormones de bien-être. Et en effet, d'un coup, on fait monter le stress, donc le système nerveux sympathique, celui qui peut donner envie de fuir, par exemple. Mais après, on développe aussi énormément notre système nerveux parasympathique, celui qui permet de récupérer. Et je vais essayer, alors c'est pas toujours évident en n'ayant que le canal auditif qui fonctionne pour les personnes qui nous écoutent, mais d'imager ça avec la courbe d'une balançoire. Je prends très souvent cette image, Bertrand, j'ai des sportifs qui viennent me voir, des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant « je veux faire monter ma balançoire vers l'avant ». C'est-à-dire que si je suis tourné vers l'est, je veux que la balançoire elle monte très haut vers l'est, par exemple, ou vers la gauche, enfin, bon, peu importe. Si, dans la vraie vie, si ta fille ou si un neveu ou une nièce te dit « je veux faire monter ma balançoire très haut », tu vas lui dire « bah oui, pas de problème, prends de l'élan ». Donc, va de l'autre côté aussi pour la faire monter. Et c'est vrai que là, ça nous paraît très logique dit comme ça, mais dans les faits, moi, je vois beaucoup de sportifs, d'entrepreneurs qui me disent « je veux plus de buts, je veux courir plus vite, je veux plus de muscles, je veux plus de clients, je veux plus d'argent, je veux plus. Donc, je veux faire monter cette balançoire », mais qui sont, entre guillemets, assez mauvais pour prendre de l'élan et donc être capable d'avoir plus de parasympathique. Je veux plus de détente, je veux plus de relâchement, je veux plus de capacité à me régénérer. Et si tu veux, pour moi, le fait de prendre des rendez-vous comme ça avec Fernand, parce que je suis dans un club où tous les dimanches, on va dans le lac du Bourget, pas très loin, on se baigne, y compris en janvier au Bourget, donc l'eau elle est à 4 degrés. Et maintenant, enfin, l'hiver dernier, j'arrivais à nager au maximum, je pense que moi je dois faire 600, 700 mètres, dans une eau comme ça à 4 degrés. Oui, ça crée un stress sur le moment, mais ça décharge aussi beaucoup d'acétylcholine, ça décharge après de la dopamine, qu'on appelle des fois aussi l'hormone de la récompense, et tu te sens très très bien après. Donc, je trouve que c'est cool. Et puis, c'est très bon aussi pour une grosse vasoconstriction. Après avoir couru un marathon, pouvoir se poser dans une eau un peu froide, intense. Et voilà, on va dire que là, c'est une cryothérapie complètement gratuite.
Bon, eh bien, écoute, on verra ça si dimanche, après 24 heures, il me prend l'envie de me tremper dans une rivière froide.
Tu nous enverras la photo.
Ouais, l'épisode sera diffusé largement après, donc j'aurai le temps de te dire si c'est le cas ou pas. J'ai fait un épisode avec Leonardo Pelagotti, qui est instructeur Wim Hof France et tout. Et on avait beaucoup parlé de ce froid, de cette respiration. Et il fait des stages dans le Cantal, là, en plein hiver, dans la neige, il va se tremper, il fait ça en plus. Puis c'est-à-dire, il rajoute du yoga et de la course. J'ai vu ça, ils font des stages communs. Ça coche toutes les cases, sauf que moi, le froid, tu sais, c'est mon truc, j'ai froid tout le temps, en fait. C'est ma femme qui fait la naturopathie, on a étudié mon truc, on a dit, mais c'est normal. Et en fait, le froid, moi, j'ai du mal, mais je m'entraîne. Tu sais, je m'entraîne vraiment là-dessus. Mais on va revenir sur cette histoire d'élan, parce qu'il y en a qui voudraient prendre de l'élan aussi, mais sans forcément se mettre dans l'eau froide. Hein. Mais quand on dit je veux prendre de l'élan, parce que tu as parlé un peu de récupération, c'est quoi prendre de l'élan finalement? De se dire, allez, je veux, par exemple, je sais pas, j'ai jamais fait de marathon, je vais me lancer dans mon premier marathon. On va prendre ça, mais et les gens, vous pouvez faire un 5 ou un 10, hein, ça marche pareil. C'est quoi l'élan pour dire je vais faire cet effort sportif que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant?
Écoute, en fait, alors si je reprends ma métaphore de la balançoire. Bon, la balançoire, il y a un moment où la balançoire, elle est pile dans l'axe, avec mes cordes, les deux cordes pile à la verticale.
Ok.
Donc, quand je suis assis sur ma balançoire, quand je vais vers l'avant, on va dire je stimule mon système nerveux sympathique, celui qui me permet de faire jaillir mon énergie. Je vais le dire comme ça, et on sait qu'il en faut pour faire un 42 km. Bien souvent, les personnes que je rencontre veulent juste, comme je disais, être dans « tiens, il faut que je fasse du fractionné ». On m'a dit ou d'abord je développe le foncier, puis après je dois développer ma VMA ou la PMA, enfin bon, c'est des trucs qui sont un peu lointains maintenant pour moi, puis ma capacité, donc voilà, je vais être au seuil, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, ça parle très bien aux gens qui nous écoutent, sauf qu'en fait, pour supporter cette charge d'entraînement, pour faire monter ma balançoire, ce qu'on a des fois du mal à comprendre, c'est que je dois aussi développer mon système nerveux parasympathique. C'est comme si je voulais muscler mon système nerveux parasympathique pour que mon organisme soit plus capable de récupérer. Muscler mon système nerveux parasympathique, ça peut être mettre en place régulièrement des séances de relaxation dans ma semaine. Plus je vais être capable de me relaxer de façon efficiente, plus je vais être capable d'endosser, de porter la charge d'entraînement. Donc, faire une technique de relaxation, faire une technique de visualisation qui va baisser mon niveau d'activation, faire de la cohérence cardiaque, d'accord, où on va venir d'une certaine façon, l'image comme ça, des fois je vulgarise peut-être un peu trop, mais on va venir reposer le cœur, l'aider à battre le plus possible en cohérence, justement pour qu'après, sur des efforts ou sur des choses inattendues, il soit capable de varier fortement son rythme et d'être dans une incohérence, mais voilà, la vie est incohérente, hein, c'est un peu le bordel et il faut s'adapter. Et bien, plus mon cœur a l'habitude de battre en cohérence, plus il va être capable de s'adapter aux incohérences. Donc, tous ces moyens, pour moi, Bertrand, vont être des moyens qui vont me permettre de prendre de l'élan, voilà, d'avoir un système nerveux parasympathique puissant qui me permet de gérer aussi le stress de la vie. Ce n'est pas pour me retirer au monde et devenir un monastère ou un moine zen, mais je prends plus d'élan pour être capable après de gérer le stress des trois mecs qui me klaxonnent le matin, de l'imprévu qui, par définition, est complètement inattendu et qui chamboule un peu la journée, mais en fait, c'est peut-être pas si grave, etc. Et donc, le parasympathique nous aide beaucoup.
Mais moi, il y a un sujet aussi, tu sais, sur lequel je suis très, très attentif et pointilleux un peu, c'est le sommeil. Et le manque de sommeil sur le stress et justement sur ces histoires-là d'élan. Comment tu veux créer de l'énergie, comment tu veux récupérer, comment tu veux être bien si tu dors pas? Et pourtant, la société, on vit dans un monde où le sommeil a été quand même mal vu. Puis on peut dire, et c'est pas fini cette histoire-là, mais c'est vrai que rappeler quand même aux gens que dormir, c'est quand même une base importante pour justement mieux gérer.
C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ça aide. Non, mais t'as tout à fait raison. Ça aide un petit peu.
Ça aide beaucoup, parce que c'est vrai qu'on le voit. Et moi, tu sais, dans mon passé, j'étais webmaster du Clermont Foot. Bon, à l'époque, ils jouaient national encore. C'était pas encore de la Division 2, tu vois. Ah si, Division 2 quand même, à un moment donné. C'est leur tout début de l'entrée dans le professionnalisme. Et alors, on découvrait des joueurs qui arrivaient de clubs comme Caen, tu vois, des trucs comme ça. Il y en a un, je lui dis un jour en interview, puis on était devenus un peu amis, puis on dit, c'est quoi ton boulot en fait? Et il m'a dit, bah moi c'est m'entraîner, dormir, bien manger, faire la sieste, et c'est de gérer ça en fait, c'est-à-dire d'être en forme pour bien m'entraîner, de bien m'entraîner, et ensuite de récupérer, de bien manger, d'être en forme, pour que tous les samedis, et puis même après il y a les mercredis et samedis, mais d'avoir ce système-là et tout. Et j'ai dit, attends, on paye pour faire la sieste? Il dit, bah oui. Je dis, mais c'est vrai? Il me dit oui. Il me dit, mais certains ne le font pas. Certains le font, certains le font pas. Certains mangent bien, certains mangent pas bien, etc. C'est des discussions que j'ai eues. J'ai des joueurs foot pro qui ont été sur le podcast. Et c'est vrai que tout le monde ne le gère pas de la même manière. Mais pourtant, on a l'impression que pour les pros, ça devrait être la base de tout comme ça. Est-ce qu'ils le comprennent bien tous ou est-ce que même eux, ils ont du mal à l'intégrer ça ?
Ça dépend beaucoup de la personnalité, mais là, ce que te dit le sportif, pour moi, est complètement analogue à ce que je disais quand je dis quand moi je vais faire mon footing ou quand je vais me poser dans la rivière, ça fait partie du process. C'est-à-dire que pour être un bon, enfin là je parle de l'exemple de PM, mais oui, bah tu dois être reposé. Donc en effet, on pourrait dire que s'aérer, dormir, peut-être faire la sieste, veiller à son alimentation, ça fait partie du process. Et donc sur les sportifs, ça dépend vraiment des personnalités. Il y en a qui ont une approche très très professionnelle, il y en a qui vont être plus casaniers, plus introvertis, qui peuvent avoir plus de capacité en fait à suivre ce rythme-là. Là où pour d'autres, c'est un vrai challenge. Et d'ailleurs, dans leur smoothie, tu sais, j'ai aussi donc moi mon petit podcast, le smoothie, où je parle un peu des ingrédients de chacun pour être performant. Tu peux aussi constater qu'en effet, il y a le bénéfice de la sieste et que dans le même temps, si pour d'autres, ça leur coupe trop de leur vie sociale, pour certains, il va peut-être mieux valoir ne pas faire la sieste et pouvoir discuter avec leurs trois meilleurs copains autour d'un café que d'aller dormir, tu vois, pour leur équilibre et pour leur capacité à long terme à performer. Mais si on n'est que d'un point de vue physiologique, en effet, on va dire que tu dois veiller de telle façon à ton alimentation, à ton rythme de vie, ton rythme de sommeil, et que c'est cette voie-là qui est la plus efficiente. Donc les sportifs qui ont la plus grande ambition le comprennent, mais comme je te disais tout à l'heure sur la motivation, pour certains, le coût est trop important par rapport aux bénéfices. Ils vont dire non, mais moi je préfère passer 2 heures le soir à jouer avec mes meilleurs potes qui ne sont pas footballeurs professionnels. Ça me fait du bien, ça m'enlève de la pression plutôt que d'aller me coucher à 22 heures. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver.
Ouais, que c'est vraiment une gestion personnelle en fait. Hein, que, on disait, chacun ne réagit pas de la même manière, chacun a besoin d'éléments différents, hein, d'un horaire d'éléments différents. Et puis je pense qu'il y a quand même une histoire aussi, l'histoire perso, les histoires familiales, l'éducation, l'environnement, tout ça qui gère, par exemple, moi et ma femme, on ne gère pas le stress de la même manière. Enfin, ma femme, elle passe ses examens de naturopathie en ce moment. Je vois la dose de stress, mais je me dis, mais moi, je suis mort. Si je mettais le même stress qu'elle sur mes examens, moi, j'ai jamais été stressé sur mes examens. Ça, c'est un autre truc, hein. C'est jamais. Alors vraiment, ce qui a épaté tout le monde. Mais, c'est pas ce qui m'a stressé. Mais ma femme, je vois, elle a un stress énorme. Mais ça vient aussi beaucoup de l'éducation, de plein de choses, en fait.
Clairement, ouais, tu as tout à fait raison. L'éducation, tu disais, c'est Bourdieu qui disait qui parlait d'habitus en disant, bon, il disait, c'est une structure structurée et structurante. C'est-à-dire la façon dont on a été éduqué est une structure un peu comme un immeuble, un échafaudage, qui est donc structuré, qui est construit et qui est structurante, c'est-à-dire qu'elle construit, elle définit nos réactions dans telle ou telle situation. Donc en effet, selon ce que l'on a vu autour de nous, ça peut nous influencer. Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire par contre qu'on copie forcément. Tu vas aussi avoir des exemples de personnes qui justement vont se construire en opposition avec ce qu'ils ont vu à la maison. Ça veut pas dire qu'on reproduit forcément les mêmes schémas. Mais en tout cas, oui, notre éducation nous influence par rapport à notre gestion du stress. Tu le vois dans des sports comme le foot, où les Français qui vont à l'étranger, par exemple qui vont en Angleterre, vont te dire la préparation du match n'est pas du tout la même. Avant le match, tu as beaucoup plus de musique, on sacralise un peu moins peut-être ce moment. Pour autant, les personnes sont très prêtes au moment du match. Donc, tu as tout à fait raison sur l'aspect culturel. Selon les modèles qu'on a vus, on va plus ou moins se synchroniser dessus.
C'est intéressant parce que, en plus, même pour nous qui ne sommes pas des sportifs pros, on se rend compte que ça a un impact aussi sur la manière dont on aborde le sport. Et notamment, il y a un truc qui... j'ai des questions des fois qui me remontent. Et j'appelle ça le syndrome du bon élève aussi. Tu sais, c'est de dire, si je dois préparer une course, je dois absolument faire ça. Et si je le fais pas, tu parles de confiance dans mes capacités, etc. Dire, si je fais pas ça, est-ce que je pourrais bien préparer ma course? Et après, on se rend compte que le voisin, il a pas du tout fait ça et qu'il arrive à faire sa course, qu'un autre a fait de telle manière, il arrive à faire sa course. Mais par exemple, les coureurs débutants qui ont jamais préparé un format, toi en plus, tu préparais de l'ultra, tu as fait de l'Ironman ou du half, je crois.
Ouais, j'ai fait 2 Ironman, j'ai fait plusieurs trails un petit peu longs, j'avais fait la 6000D, j'avais fait le Chimbered aussi en Martinique. Donc ouais, j'aime bien les épreuves d'endurance.
Et les gens, tu vois, qui se disent, bon, je veux faire un Ironman, ils disent, est-ce qu'il faut que je passe, il faut que je fasse ça. Tu vois, c'est le syndrome un peu ce que j'appelle du bon élève. Et tu dis, si je le fais pas, je risque de me planter. Donc je rajoute du stress, en fait.
Ouais, très clairement. En fait, bon, j'ai souvent des réponses de Normand, je suis désolé, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec Klein, là, sur l'engagement sans modération des gens modérés. En fait, tout est question d'équilibre. Il y a un monsieur qui s'appelle Timothy Galloway qui dit que la performance, elle est égale au potentiel moins les interférences. À nous de voir si, quand je me mets comme ça dans cette planification, tu me disais, tiens, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand je suis dans cette logique, jusqu'où je peux aller en développant mon potentiel, et à partir de quel moment ça devient le développement de mes interférences. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la sieste, c'est-à-dire que pour certains, si dans la journée, ils doivent faire des sportifs pros, est-ce que je suis passé me faire masser après l'entraînement? Oui. Est-ce que j'avais fait un pré-échauffement individuel avant l'échauffement collectif? Est-ce que j'ai fait de la cryothérapie? Est-ce que quand je suis rentré, j'ai bien pensé à boire mes 2 litres de flotte, etc., etc. Il y a un moment où toutes ces cases à cocher deviennent une interférence, et le cinquième jour, le gars dit, bon, en fait, c'est bon, aujourd'hui, je vais juste me prendre une bière, discuter avec mes potes et ça ira. Et donc, si tu veux, sur ce syndrome du bon élève, moi, plusieurs fois, alors, je suis désolé, je parle beaucoup de foot, mais on pourrait tout à fait avoir, le même parallèle avec des sports d'endurance, les cycliques. Je vais avoir des sportifs qui vont être déçus, par exemple, qui vont dire, bah, tiens, le match dernier, j'avais tout bien préparé, et finalement, j'ai joué que 10 minutes. Ouais, bah, ça m'a saoulé, et tu as raison, ça devient une charge mentale et une charge physique de tout bien faire. Et ils vont arriver au match suivant un peu en mode ça n'a pas d'importance, pour le dire poliment, voilà, il n'y a pas d'enjeu, j'y vais, c'est bon. Non, bah, cette semaine, tu vois, je me suis permis de me prendre une fois une tarte au citron, et puis bah, j'ai eu envie de regarder une série avec ma chérie. D'habitude, je ne regarde qu'un épisode sur deux. Ben là, cette fois-ci, j'ai regardé les 2 épisodes et je me suis couché à 23h. Et finalement, ils sont arrivés beaucoup plus détendus. Alors, sans doute pas dans les meilleures dispositions physiques, mais dans les meilleures dispositions mentales. Je veux dire, ouais. Bon, j'ai réalisé une superbe performance. Et j'avais eu l'exemple aussi à une époque, Bertrand, là, sur un sport d'endurance où je travaillais avec un cycliste qui avait un bon niveau. Et son petit frère avait 2 ans de moins. Et avait, en fait, ils concouraient ensemble. Quand je dis un bon niveau, on était sur du haut niveau régional. Ce n'était pas des pros, c'était des étudiants. Et l'aîné me disait, écoute, moi, le jeudi, je ne fais pas les soirées étudiantes. Le vendredi, je ne vois pas les copains. Le samedi, je fais très attention à ce que je mange, je me couche tôt. Et le petit frère qui a 2 ans de moins, il fait la soirée étudiante le jeudi. Il ne se refuse pas de temps en temps un burger ou une bière, etc. Et en fait, on est, tu vois, il n'y a pas un niveau, un écart très fou au niveau des résultats, voire le petit frère était devant. Et je lui disais, mais c'est génial en fait, parce que tu as sous les yeux la preuve qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver à la performance et que peut-être tu es un peu trop exigeant avec toi, un peu trop tendu. Tu sais, le stress, hein, ça vient de stringer, voilà, tendu comme un string. Bah, finalement, tu es peut-être tellement tendu dans ton process. Je caricature, mais ça va parler à tous à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'en fait, tu n'as plus une respiration abdominale. Tu es tellement tendu que tu es sur une respiration thoracique. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, il faut. Ah, purée, il est déjà 21h30, je ne suis pas encore couché, il faut vite que je rentre, etc. Et en fait, tu en es à créer plus d'interférences. Oui, c'est bien d'avoir une planification de la performance, mais tu as la preuve sous les yeux, avec ton petit frangin, qu'on peut être un peu plus détendu. Il ne se mettait pas non plus des caisses à rentrer à 3h du mat. Mais se prendre peut-être un demi, discuter avec les copains et finalement se coucher à minuit le vendredi, ça ne veut pas dire que forcément tu vas rater ta course le dimanche. Peut-être que tu arrives plus détendu, serein, si tu as de la clarté quand même sur tes ressources et que tu t'es entraîné, pas ce qui va faire que tu vas forcément contre-performer.
Mais alors, tu vois ce à quoi tu me fais penser là, cette histoire, c'est aussi, bon, on va reprendre le foot, parce que je trouve que c'est intéressant en foot, mais qu'on peut reproduire sur la course à pied, parce qu'on l'a vu sur des gens, c'est le mec qui normalement ne devait pas jouer, qui se retrouve sur le banc des remplaçants un peu par hasard, un peu à la Duce, quoi, et qui se retrouve sur le terrain, parce qu'il y a un mec qui s'est fait expulser, ou je sais pas quoi, ou il se passe un truc, ou le mec se blesse, et puis d'un coup, il fait le match de sa vie, et que sa carrière se lance. Et on l'a dit en foot. Moi, je l'ai vu en rugby, ce truc-là. Hein, y a des joueurs de rugby qui, normalement, ils devaient pas rentrer sur le terrain ce jour-là et qui, finalement, se retrouvent à marquer un essai et se deviennent titulaires quelques temps après. C'est un peu ça aussi. C'est finalement de dire que si on les avait préparés pendant des semaines en disant ce jour-là, tu vas jouer, ce jour-là, tu vas jouer, ce jour-là, tu vas jouer, peut-être qu'ils auraient eu du stress. Alors que là, ils y arrivent en disant bon, bah, normalement, je ne suis pas censé jouer, alors vraiment à la marge et autres. Et peut-être, c'est ça aussi, peut-être, qui peut les libérer. Et on peut retrouver ça sur des coureurs qui, peut-être, se disent, bah, ouais, j'ai vu une course, je rentre de vacances, je vois une course, je m'inscris sans préparation, puis finalement, je cartonne tout, quoi.
Ouais, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, en n'étant pas préparé, on n'a pas le loisir de se mettre la pression d'imaginer, tu sais, on est des êtres du passé et du futur, on a beaucoup de mal dans le présent, et donc t'en as qui vont, comme on dit bien souvent, faire le match avant, c'est-à-dire se projeter dans cette situation en amont, peut-être avoir de la tension par rapport à ça, avoir du mal à trouver le sommeil, là où d'autres sont absolument convaincus qu'ils ne devraient en effet pas être concernés directement par cette situation, et donc vont être beaucoup plus détendus. Donc ouais, je te rejoins, j'ai aussi eu moi ces exemples-là déjà vécu, de personnes qui se retrouvent sur le terrain, c'était pas forcément prévu, et sont dans ce cas-là plus dans une posture de « j'ai tout à gagner », plutôt que « j'ai tout à perdre », d'être le titulaire qui va peut-être… Mmh. Voilà. Encore une fois, ça dépend, tu sais, sur certains tests, sur des profils de personnalité, on voit que certaines personnes sont plutôt des personnes prudentes, donc plus orientées sur… si on imagine que je suis la souris qui voit le fromage dans la cuisine, bah, t'en as qui imaginent toujours qu'il y a un énorme chat, il y a un énorme danger, une menace, quelque chose de diffus un peu en périphérie, là où d'autres sont très orientés par le fromage et sont plutôt câblés sur qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette situation. Les personnes un petit peu anxieuses sont plutôt câblées sur qu'est-ce que j'ai à perdre dans cette situation. Et donc, pour elles, ne pas savoir à l'avance qu'elles sont titulaires, c'est plutôt une chance.
Mais c'est intéressant parce que, en fait, les deux peuvent réussir. Hein. C'est pas, il n'y a pas un profil qui réussit, un profil qui n'arrive pas. Sûr, c'est juste que l'approche va être différente.
Mais tu as tout à fait raison. Tu sais, on parlait au début de notre échange de la motivation. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise motivation, mais il est important de comprendre typiquement que tu as des personnes qui ont plutôt une motivation appétitive, c'est-à-dire « je vais là-bas » parce que j'ai de l'appétit à aller là-bas. T'en as qui vont avoir une motivation aversive, c'est-à-dire qu'elles vont là-bas, je vais aussi là-bas, sauf que je vais là-bas parce que j'ai de l'aversion pour ce que je vis derrière. Donc, en fait, de l'extérieur, on va voir Bertrand et son copain, les deux courent pareil, les deux s'entraînent pareil, mais c'est quand même très important de comprendre qu'il y en a peut-être un qui est câblé sur une motivation appétitive, alors que l'autre est câblé sur une motivation aversive. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui sera meilleur en compétition, tu as tout à fait raison. C'est juste comprendre quel est le meilleur chemin que l'on doit prendre, tous les deux, si on a une motivation différente.
Ouais. Et puis, alors ceux qui sont entrepreneurs, ça c'est, je pense que chez les entrepreneurs, c'est un truc que tu vois beaucoup, entre ceux qui sont aspirés par un idéal et puis ceux qui sont en train de fuir. Et moi, je sais, parce que moi, il y a un truc qui me fait fuir, c'est le salariat. Dire, punaise, il faut absolument pas que j'y retourne, il faut absolument pas que j'y retourne, il faut absolument pas que j'y retourne. Je sais que c'est un moteur dans mon entrepreneuriat à moi qui est extrêmement fort. Et je le dis, mais c'est comme ça, parce que peut-être qu'au début, j'avais la vision de dire, je veux faire ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Mais je me rends compte qu'il y a souvent des moments et c'est là où il y a un gros stress. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est souvent où on se retrouve très productif, on se rend compte qu'on va faire plein de choses. Il y a le coup de l'adrénaline, on se dit « oh punaise, il faut que je fasse ça, que je fasse ça », où on avance très vite parce que justement, on a quelqu'un un jour m'a dit « c'est comme si tu avais le lion qui te courait derrière ». Il y a un moment donné, tu sens qu'il faut que tu accélères et c'est un moteur. C'est vrai que c'est un moteur. Et dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on retrouve beaucoup, mais on va le retrouver dans le sport, mais toi qui suis des entrepreneurs et moi qui en suis un et qui accompagne des entrepreneurs, c'est un truc qu'on voit très souvent, ça.
Oui, très clairement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu le vois en effet avec cette crainte de retourner dans le salariat, avec cette crainte parfois de voir la trésorerie baisser aussi. Et ça va être une motivation pour agir davantage. Et là, tu as tout à fait raison. On est plus câblé sur la motivation aversive, même si on peut avoir les deux, mais on est sensible à des dominantes et ça aide à passer à l'action. Donc, c'est bien aussi de comprendre comment on fonctionne parce que on peut se poser la question aussi quand tout va bien, et c'est cool hein, que tout aille bien, mais de ce que l'on fait. Quelqu'un qui est plutôt câblé sur une motivation aversive, si demain il a 9 mois de trésorerie ou 1 an de trésorerie devant lui sur sa boîte, peut-être que c'est des personnes qui vont moins faire. C'est pas grave, c'est juste en effet de le savoir, de comprendre comment est-ce qu'on peut, si besoin, pallier cela, mais c'est bien, tu sais, c'est comment, je crois que c'est Tony Robbins qui dit que la clarté est un pouvoir. Et en tout cas, voilà, comprendre comment on fonctionne, que ce soit pour préparer une performance sportive ou une performance entrepreneuriale ou scolaire, on pourrait dire, c'est toujours une chance d'avoir de la clarté sur nos ressources et nos modes de fonctionnement.
Ton livre est, il y a Olivier Magne en gros là sur le nom de la couverture, et je trouve que c'est un exemple très intéressant. Tout à l'heure tu parlais du double projet, parce que j'ai écouté l'épisode du Smoothie où il était invité, où un truc que peut-être les gens ne savent pas, mais son truc à lui au départ, c'est de faire du ski. Son projet de vie, enfin on pourrait dire, c'était d'être un skieur. Il arrive au rugby très tardivement, et pourtant il est international. Il aurait pu gagner la Coupe du Monde de rugby et tout. Hein. Ça fait partie des meilleurs joueurs au monde de rugby.
Il a 4 grands chelems, je crois. Ouais,
ouais, c'est pas vraiment. Et pourtant, quand on écoute son parcours, son truc à lui de départ, c'était le ski. C'est-à-dire de partir sur le ski, de faire du ski. Pourtant, il vient d'Aurillac. Aurillac, il y a une équipe de rugby, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est marrant, hein, ces parcours aussi. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau n'ont pas tous programmé depuis le premier jour, la première minute, etc. Parce qu'il y en a qui ont des projets en disant ah, « je veux qu'on fasse ça ». Mais en fait, on se rend compte que certains ont des chemins qui ne sont pas si linéaires ou pas programmés à l'avance, quoi.
Bah écoute, en fait, moi, ce que je trouve très, très honnête aussi avec Olivier, c'est de rappeler qu'à l'époque, il est rentré dans le rugby alors que cette discipline n'était pas du tout professionnelle, qu'en effet, grand, grand fan de ski, ce qui l'a plutôt guidé sur cette activité, c'était la notion de plaisir. On parlait tout à l'heure de motivation, de mouvement, hein, motivation, mauvais mouvement, même racine qu'émotion d'ailleurs. Et c'est vrai que d'avoir du plaisir dans une activité, c'est sans doute le meilleur moyen de s'y investir durablement. Tu évoquais tout à l'heure le fait de connaître certaines personnes qui peuvent courir un marathon, puis s'arrêter une fois que la case est cochée. On était là, pour le coup, sans doute plus dans une motivation extrinsèque qu'une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que si on aime vraiment la course à pied, et c'est pas, y a pas de jugement là-dedans, mais si on est dans une motivation intrinsèque par rapport à la course à pied, il est probable que même après le 18e marathon, on ait encore envie de courir, puisque intrinsèquement, on aime ça. Alors que si on aime plus de manière extrinsèque la course à pied, c'est-à-dire que je vais aimer la course à pied pour les bénéfices que cette activité peut me procurer.
C'est des sujets qui sont très intéressants. Et moi, je dis, hein, quand on se plonge dans tous ces rouages du cerveau, du mental, du fonctionnement, de comment tout ça nous anime, hein, tu rappelles, hein, la racine de bouger qui sont importants. Et ce que j'aime bien dans ton podcast, parce que tu le répètes, c'est que la préparation mentale, finalement, elle ne s'adresse pas qu'aux sportifs. Hein. C'est tout le monde qui aura besoin de la préparation mentale, parce que là, tout à l'heure, j'étais sur la page de l'enjeu, là, et comme tu nous as parlé de l'enjeu, mais je parlais de ma femme avec ses examens, c'est qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important. En tout cas, elle se mise beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un truc sportif, ça peut être même ces enfants qui passent un concours, je sais pas, du conservatoire ou un examen, on stresse pour eux. Enfin, il y a plein de choses en fait. On pourrait se dire que les méthodes de préparation mentale s'appliquent à tout.
Ouais, clairement, vraiment, vraiment. Et oui, toi, moi, c'est typiquement, c'est pour ça que j'ai voulu faire le livre. Hein. C'est vraiment pour apprivoiser, on va dire, des techniques de préparation mentale et que la préparation mentale soit un peu plus dans nos foyers. Comme je disais tout à l'heure, sur la vie perso, ça peut bien entendu nous aider. Et là, tout ce que tu partages à juste titre, Bertrand, me refait penser justement à la problématique du stress chronique qui nous met dans un mode mental, c'est le professeur Fradin qui appelle ça le mode mental automatique, où en fait, on ne questionne plus notre perception de l'enjeu. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant l'enjeu que la perception qu'on en a. Et bien entendu qu'un enfant qui passe le conservatoire, c'est important, ou une personne qui passe ses épreuves pour devenir naturopathe, c'est important. Mais peut-être que si on arrive à baisser un peu la perception qu'on a de l'enjeu, à le relativiser un peu, ça ne veut pas dire qu'on s'en moque de l'avoir ou de ne pas l'avoir, mais peut-être que ça va nous permettre d'exprimer davantage notre potentiel en se disant « oui, c'est important, mais important de façon saine, et je ne joue pas ma vie sur cette journée ou sur les 3 journées d'examen ». Donc, c'est vrai que la préparation mentale, elle est importante pour un étudiant, pour une lycéenne, pour un médecin, pour un salarié, un chef d'entreprise, un sportif, un chômeur. Ça peut vraiment parler à beaucoup, beaucoup d'entre nous et pas uniquement à des personnes qui veulent gagner une médaille olympique à Paris 2024.
Et c'est pas facile, cette histoire-là, parce que t'as la clé 3 dans ton livre, c'est le résultat ne vous appartient pas. Et c'est vrai que, quand même, tout est tourné vers le résultat. Et on parlait tout à l'heure, tu me donnes l'exemple d'une lycéenne, mais combien de fois les notes, on veut le résultat, on veut telle note, on veut. Alors, il y a ceux qui veulent les mentions. Mais même ceux qui ont fait des classes prépa, tes étudiants ingénieurs que tu avais une époque, s'ils ont fait une classe prépa, peut-être ils faisaient partie de ces prépas où le dernier, on donnait la copie au moins bon en premier ou en dernier, où il fallait, on leur mettait un stress. On crée du stress, les examens, etc. C'est-à-dire que c'est quand même tourné sur un résultat. Tout ce qu'on fait, on est quand même dans un monde compétitif. Donc, le résultat ne vous appartient pas, mais bon, on est quand même tourné vers lui, quoi.
Ah, mais t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et à la fois, il en faut. Si je reste sur une pratique plutôt, on va dire, entrepreneuriale et sportive, ce qui est ma pratique courante de la préparation mentale, et aujourd'hui, je suis que très rarement enseignant. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas des résultats et qu'il ne faut pas des objectifs de résultats. Je dis juste que si on est câblé que sur le résultat, je veux être champion de France ou je veux être dans les 50 premiers du prochain marathon que je vais faire, si on est câblé que sur le résultat, posons-nous 30 secondes pour réfléchir à la part que nous maîtrisons de cet objectif. En fait, qu'est-ce que je maîtrise quand je dis que je veux être dans les 50 premiers ? Très peu de choses. Tout dépend combien nous sommes à partir, mais selon le niveau des autres, en fait, je ne maîtrise finalement quasiment rien, je maîtrise juste ma performance. Donc oui, gardons-le en tête, ce résultat, mais gardons à l'esprit que ça va être le résultat aussi de mes actions, tout comme les résultats des actions de tous les autres qui vont concourir, que ce soit sur un concours scolaire ou sur une épreuve sportive. Donc, quand je dis le résultat ne nous appartient pas, en effet, c'est pour lâcher un peu de la pression là-dessus, venir re-questionner notre projection aussi de la situation, dire « Ok, plutôt que de me dire que tu vas être dans les 50 premiers, quel temps tu vises à ton 42e kilomètre? Quel temps on vise au semi, etc. Quelle serait la performance idéale pour toi ?» Et donc ça va être nos objectifs de performance et on va décliner nos objectifs de performance en objectifs de processus. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place quotidiennement pour me donner les chances d'avoir mon objectif de performance? Et si j'atteins, grâce à mes objectifs de processus, la performance que je vise, je me donne de grandes chances d'atteindre mon objectif de résultat. Mais je vois trop souvent des sportifs et des entrepreneurs qui, lors de la première séance, quand je leur demande quels sont tes objectifs futurs, ne me parle que de résultats. Et plus on va donner du contrôle, moins on aura de stress. Encore une fois, le stress peut nous faire du bien, mais c'est très bien d'avoir du contrôle sur le processus, sur la performance que l'on vise, parce qu'il reste justement cet élément un peu inconnu qui va générer un peu de stress et sans doute du stress salutaire sur le résultat. Mais la perte de contrôle est génératrice de stress.
Mais alors hier, j'ai entendu une anecdote. Donc hier, je rappelle, c'était par rapport à notre enregistrement. Le 25 septembre, hier, c'était le marathon de Berlin. Kipchoge bat le record du monde du marathon. Et je ne sais plus qui était le commentateur, mais qui est un coureur, dit Kipchoge, il a un truc qui est particulier, c'est que quand on lui demande quel est son objectif sur cette course, il annonce qu'il veut juste battre son meilleur temps. Et il n'a pas dit qu'il voulait battre le record du monde, il a dit qu'il veut battre le meilleur temps. Ce qui est intéressant, parce qu'on revient aussi là-dessus quand même, c'est que s'il bat le meilleur temps, s'il est premier, il bat le record du monde. Mais il n'est pas... Bon, est-ce qu'il est à l'abri ou pas? On a vu qu'hier, ce n'est pas le cas. Mais n'empêche que l'objectif qu'il annonce, c'est un objectif qui dépend de lui. C'est-à-dire battre son record, son temps, et pas le record du monde. Parce qu'il aurait pu avoir... Et je pense toujours, tu sais, l'histoire de... Dans ma jeunesse, j'étais marqué par le record de... Pas le Carl Lewis, comme il s'appelait... tu sais, en son longueur, là. Il y avait le record de Bimon qui n'avait pas été battu pendant des années. Et puis, il y a une année, ils sont tous à battre le record du monde du 100 longueurs. Et il y a Carl Lewis, et puis l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Powell, qui était, tu sais, qui fait un
Powell,
saut, ouais, qui bat le truc. Et je me dis, les mecs, ils sont à la lutte pour battre le record du monde. Les deux, ils battent le record du monde. Mais en fait, il n'y en a qu'un qui est champion, etc. Mais quand on prend le résultat, Carl Lewis, il pensait que s'il battait le record du monde, il serait champion du monde. Mais, comme tu le dis, le résultat de la médaille, dépendait pas que de lui, dépendait aussi du gars à côté. Et un peu, tu vois, on a vu sur l'UTMB cette année, Mathieu Blanchard, j'ai dans le podcast, il fait partie des deux qui passent sous les 20 heures, mais il gagne pas pour autant parce qu'il y en a un autre. Bon, c'est qu'il y a toujours d'être. Il y en a un autre, ça dépend pas de lui, la victoire ne dépend pas de lui, complètement.
Ouais, exactement, et je trouve aussi que Il y a quelque chose de sain à avoir de la clarté sur nos objectifs de performance et de processus. C'est que justement, on va pas jeter, tu sais, comme on dit des fois, l'eau du bain et le bébé avec. On peut encore une fois relativiser. Alors, c'est pas toujours facile quand on se dit, tiens, je suis deuxième ou je suis quatrième, je suis au pied du podium. N'empêche que si l'objectif de performance déjà est atteint, je pense que c'est une satisfaction. Je pense, alors c'est facile de dire ça, moi je suis pas un grand compétiteur, oui, je fais mes petites compètes des fois de trail ou autre, mais je pense aussi qu'on peut parfois avoir de la reconnaissance pour les personnes qui sont devant quand elles se sont bien entraînées, parce que c'est peut-être aussi grâce à elles qu'on améliore notre performance et c'est peut-être grâce à elles, dans certains cas, qu'on va trouver aussi encore de la motivation pour performer, s'en inspirer et être encore meilleur, peut-être la prochaine fois, comme les personnes qui te disent, bah, moi je veux déjà améliorer mon temps, c'est-à-dire réaliser ma meilleure performance possible. Et en effet, peut-être qu'un jour, on peut améliorer son temps et se retrouver deuxième ou troisième. Le résultat dépend tellement des autres.
Mais tu sais, moi, c'est pour ça que je déteste les commentaires de sportifs sur l'équipe. Tu sais, les gens qui ne font pas de sport, qui regardent les résultats et qui disent à un champion, il finit quatrième. Et dire, ah ben tiens, il finit que quatrième, c'est nul et tout, il aurait pu faire ça. Mais et qu'à côté de ça, tu as le sportif, quand il est à l'interview au micro de Nelson Montfort sur les Jeux, il dit, mais je suis super content de ma course. Ouais, je finis quatrième, ça fait yesh, mais franchement, j'ai fait une belle course et je suis content de ma course. Il y a des gens qui ne le comprennent pas, ça. Mais en fait, quand tu rappelles ce que tu viens de dire, bah, ça explique aussi. C'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui la quatrième place, leur performance, ils ont tout fait, mais c'est vrai que tu n'es pas à l'abri, que tu es un mec qui débarque ou une fille qui débarque, qui fasse un meilleur temps. Et on l'a vu pour plein de sportifs. On l'a vu pour plein de sportifs. Moi, je suis à Clermont, on a Lavilleni. Qui une fois au JO, il voit un mec qui débarque à Rio, qui leur sort un saut comme ça magique, alors qu'il aurait pu être champion olympique pour la deuxième fois. Bah le mec, il sort ça quoi. Bon, et je crois qu'il en a pas ressorti beaucoup après le gars derrière.
C'est vrai, c'est vrai. Bah c'était un Brésilien justement, ouais.
Mais ça fait partie de la compétition. Ouais, c'était Braze. Il faut l'accepter en fait. Il faut l'accepter. Alors nous, à notre niveau, on n'est pas dans ces histoires de victoire et de premier, d'être deuxième. Mais ça nous rappelle aussi que nous, il faut d'abord nous fixer des objectifs qui soient aussi de progression personnelle. Et passe, et la progression, elle n'est pas jugée d'ailleurs que sur le chiffre. Hein, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps. Sur, c'est pas que le chrono, il peut y avoir plein d'autres objectifs de progression qui amènent aussi des processus pour progresser.
Oui, clairement. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est intéressant et ça donne une autre lecture à ce que l'on met en place. Et je te rejoins sur là aussi la lecture des résultats par les personnes qui ne sont pas directement dans le processus de performance, qui peuvent être dures des fois à lire par certains ou certaines athlètes. Et là aussi, c'est bien de savoir prendre un peu de distance par rapport à ça. Moi, j'ai déjà eu des sportifs qui ont coupé leurs réseaux sociaux après certaines épreuves, pas tant parce qu'ils étaient déçus de leur performance, mais en fait, la lecture des commentaires, donc des personnes qui justement portaient un jugement sur cette performance était trop génératrice, on va dire, d'interférence justement pour eux.
Ouais. Et ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu, dont je parle souvent, que j'ai vu sur l'équipe, sur les joueurs de tennis, les jeunes tennisman qui se prennent les insultes des parieurs quand ils perdent un match, quand ils loupent les balles de match, et qui ça leur amène une peur d'ailleurs, qui est la peur du résultat sur les balles de match, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas ça à côté. Moi j'ai joué un petit peu au tennis pas longtemps, mais on me disait souvent t'as peur de gagner le dernier service, t'as peur de la taper fort, etc. Que on l'a vu combien de fois sur les grands tournois, quelqu'un qui a 3, 4, 5 balles de match qui les passe pas, et on dit oui mais il a peur de gagner, et les gens ne comprennent pas ce truc là mais c'est vrai que c'est là aussi où le stress. Quelqu'un qui, je sais pas, on sert pour le grand chelem, on l'a vu, hein, ça peut, il y a un stress qui monte, qui est un préparateur mental, il peut préparer aussi à ça, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui va se passer quand tu es dans telle situation, mais c'est difficilement imaginable aussi pour certains, c'est-à-dire d'arriver à savoir ce qui va se passer, de le vivre, parce que tu l'as jamais vécu, donc c'est ça aussi l'expérience, c'est de. Faut l'apprendre.
Ouais, clairement. En effet, oui. Donc oui, j'ai vu aussi ce reportage hein, qui touche des jeunes tennismen, mais aussi des moins jeunes. Enfin, quand je dis des moins jeunes, on voit par exemple quand même Carole Garcia aussi. J'ai un doute là sur le prénom. C'est Carole ou Caroline, je sais plus.
Caroline. Bah, d'ailleurs, on voit qu'il y en a un, c'est je sais plus lequel, qui n'a même plus de réseaux sociaux. Il dit bah moi je m'en fous, j'ai même pas de téléphone. Et c'est lui qui est le plus heureux de tous. Mais après, ils sont obligés aussi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, ils sont partenaires de grandes marques, ils sont obligés d'être sur les réseaux sociaux pour dire je joue avec telle raquette, je joue avec tel truc, je fais ça
c'est
et ça.
C'est
ça aussi qui est l'envie, la difficulté du sportif. On se rend pas compte du stress qu'il y a sur ces sportifs comme ça.
C'est ça, ouais, c'est ça qui est très compliqué. Et en effet, ça crée même. Alors. En effet, stress, et moi, le terme me va bien, mais là, du coup, ça crée même plus de l'anxiété. Mmh. C'est-à-dire, ça crée. L'anxiété, on pourrait dire que c'est un stress d'anticipation ou de rumination.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans la situation stressante du match. Bon, on est dans une autre situation stressante qui est la lecture des commentaires. Et c'est vrai que ça crée beaucoup d'anxiété parce que, oui, tu vois qu'ils se font insulter parce qu'un tel avait parié 20 euros et pour certains, des fois, c'est 5000 euros sur tel ou tel résultat. Et donc ça, c'est très compliqué. C'est vrai que sur la préparation, l'imagination de tel ou tel scénario, je pense que ça fait partie du rôle du préparateur mental, ça fait partie du travail aussi du sportif ou de la sportive, hein. Tout le monde ne travaille pas avec un préparateur mental, mais d'imaginer certains scénarios. Et je repense justement, tu parlais du perchiste La Villainie sur Rio. Je crois vraiment, alors je ne sais plus si c'est à Rio ou s'il l'a dit à Doha, moi je pense qu'il a vécu deux grandes contre-performances, ça reste un immense champion, contre-performance en termes de résultats. Mm. Et je pense, alors je ne sais plus à quelle compète, où justement il est interviewé et lui répond, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel niveau dans ce concours. Mm. Et là, du coup, on est plus câblé justement sur les autres.
Ouais.
On est câblé justement sur le résultat en se disant, bah, normalement, si je fais telle perf, je vais gagner. Mm. Et donc, il y a vraiment tout ce processus. C'est pour ça que ah oui, le résultat ne nous appartient pas, quoi. On ne peut pas savoir, on n'est pas à l'abri que tel jour, tel athlète, on ne sait pas pourquoi, mais soit dans des conditions optimales et sorte un saut que la personne peut-être ne ressortira plus jamais après.
Ouais, mais tu sais, on n'est pas à l'abri aussi que la personne en question, ce soit soi.
Bien sûr, ah, mais c'est sûr.
J'ai reçu des messages aujourd'hui de gens qui me disent bah, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis la première de ma compétition. Je suis monté sur le podium, je suis la première de ma catégorie. Des gens qui ne s'attendent jamais à gagner des courses. Et j'ai eu des invités comme ça, je pense notamment à Cécile Bertin qui racontait qu'elle a gagné un marathon. Elle avait prévu de courir le semi-marathon, elle se retrouve première. Elle dit bah, finalement, je vais courir le marathon. Et par erreur, comme elle le dit, elle se retrouve à le gagner. Donc, c'est le soi peut être la personne qui fait la super performance, peut être soi aussi, même à des niveaux qui sont les nôtres, hein, où on est vraiment amateur, et en disant bah, dans des jours, parce que je l'ai vu dans des crosses, quand je faisais des crosses avec le club, il y avait une fille qui ne s'alignait pas à un cross quand elle savait qu'il y avait des adversaires qui pouvaient la battre, et d'autres, nous, qui venaient en disant bah, on va battre notre meilleur temps. Et donc, il y en a une, elle faisait la tête, tu sais, à chaque fois, et qu'elle le voyait, c'était drôle de voir les comportements qu'il y avait. Mais se dire qu'en fait, bah, des fois, la bonne surprise, elle peut être aussi pour nous, en disant bah, finalement, telle personne ne vient pas, telle personne ne vient pas, moi je fais une bonne perf. Et puis, bah, le classement peut être bien meilleur que ce que je m'attendais. Mais en fait, il ne dépend pas que de moi. Et moi, j'ai donné le meilleur. Mais c'est vrai que le résultat global dépend aussi de ne serait-ce que de la présence des autres et de ce qu'ils ont fait aussi pour être là.
Ouais, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et tu vois, alors, sur de l'athlée, alors, on n'était pas sur des pratiques longues d'endurance, mais à une époque, je bossais avec Camille Lejoly, qui a eu des titres en heptathlon. Parfois, la performance n'était pas satisfaisante, mais le résultat l'était. C'est-à-dire, l'objectif de résultat était d'être podium ou d'être première sur telle compète. L'objectif de performance était de faire X nombre de points. Ben, en fait, on avait fait, ben, la personne pouvait avoir fait moins de points, mais finalement valider quand même l'objectif de résultat. Donc, ça montre bien en effet que parfois même, alors peut-être parce qu'on est très bien préparé, mais même avec une contre-performance, on peut avoir un résultat satisfaisant et parfois on peut battre son record et faire une superbe performance et finalement être au pied du podium, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que lire, le résultat. Je trouve que c'est très, très réducteur. Mais voyons la performance et puis voyons les processus parce que c'est pareil. Des fois, on fait une super perf et on se dit bah, c'est génial parce qu'il y a encore des améliorations possibles sur les processus, des améliorations qu'on est d'accord de mettre en place. Parfois, on le disait aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité. Alors, on me dit oui, mais Raph, en fait, finalement, tu dis tout et son contraire. Je dis juste qu'on doit travailler au cas par cas parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans certains cas, certains vont, pour X raisons, être incapables de suivre les objectifs de processus. Peut-être qu'on en avait trop mis. La sieste à telle heure, tu manges tant de flocons d'avoine, tu fais ci, tu fais ça et tu dors à 21h. Bah, certains, à un moment, envoient les objectifs de processus volés et finalement arrivent à s'activer pleinement le jour de la compète et faire une superbe performance alors qu'on n'a pas du tout respecté les objectifs de processus.
Comme quoi, des fois, c'est la beauté du sport aussi, hein, c'est la beauté de l'humain. Bon, on a beaucoup parlé du stress et du fait, mais de le fuir, de le combattre, d'activer tous les éléments, donner de l'élan. Mais il faut rappeler quand même que, tu le dis à la fin, que le stress, on peut lui donner des rendez-vous parce qu'il peut être bénéfique. Et que il a aussi son rôle à jouer dans la performance et dans notre activité.
Ouais, très clairement, très clairement. Et merci de le repréciser, de me permettre de revenir dessus. Mais en fait, le livre, mon livre, La 8 clés pour gérer son stress comme les champions, c'est pas une méthode anti-stress. Le stress, encore une fois, est bon pour la santé. Le stress peut nous sauver la vie dans certaines situations. Peut nous aider, donc il est salutaire. La seule chose que j'essaie de gérer, c'est l'excès de stress, c'est le stress chronique, mais avoir du stress, c'est bien. C'est bien aussi d'être dans des situations qui sont importantes pour nous, c'est bien aussi de se questionner sur nos ressources et de voir de quelle façon est-ce que je peux soit plus les considérer, soit les améliorer, parce que des fois, peut-être qu'à juste titre, je pense que je n'ai pas le niveau pour faire face à telle ou telle situation, allons-y justement, entraînons-nous, préparons-nous différemment, et c'est hyper salutaire, c'est hyper bon pour l'estime de soi de se sentir progresser. Donc encore une fois, ouais, t'as tout à fait raison, hein. Moi je l'appelle Fernand, le stress un peu comme un vieil ami, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas envie de le tuer, mon vieil ami, ou de le manger, j'ai conscience qu'il veut m'aider. Parfois il est un peu têtu, parfois il est un peu dépassé, ou à trop vouloir mon confort tout le temps, alors que moi j'ai envie de me confronter aux éléments et que ça peut me faire du bien. Donc c'est juste arriver à relativiser, à questionner un peu ce stress, mais sans vouloir l'éradiquer. Et de toute façon, je pense que c'est un vœu pieux.
Eh bien écoute, on va conclure là-dessus, c'est une très belle conclusion. Parfaite. Alors, on va juste rappeler, alors, le titre du livre, 8 clés pour gérer son stress comme les champions. Ça, on le trouve très facilement, version papier, version numérique, sans aucun problème, je mettrai le lien. Et puis tu vas nous rappeler les liens pour les gens qui voudraient te suivre, te contacter, savoir ce que tu fais, etc.
Ouais, ok, ben merci beaucoup pour cette occasion. Alors, on peut me retrouver en tapant Raphaël Oma. Oma, c'est H-O-M-A-T. Je suis présent sur Instagram. J'ai un site internet. Je suis présent aussi sur LinkedIn. On peut tout à fait me contacter sur LinkedIn. Et puis, ben, comme toi, Bertrand, alors moi, il est beaucoup plus récent. Mon podcast, il est tout petit et je serais ravi de t'entendre dans Le Smoothie. J'ai aussi donc un podcast qui s'appelle Le Smoothie. Ou parfois seul, ou parfois avec des invités, on vient visiter un peu les ingrédients des uns et des autres que les personnes donc mettent dans leur smoothie, peut-être pour performer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'athlète, en tant qu'artiste également. Donc voilà, si vous voulez avoir quelques éléments sur votre préparation mentale, vous pouvez venir aussi écouter Le Smoothie qu'on trouve sur les différentes plateformes d'écoute.
Et que j'écoute en courant sur le... Alors, le jour où j'ai découvert, je l'ai bingé, j'en ai écouté, je ne sais pas combien d'affilée. Et j'ai trouvé vraiment, puis j'aime bien le ton, t'es posé sur les éléments, c'est super intéressant. Le livre aussi, de toute façon, si t'étais pas bien, je t'aurais pas invité. Donc ça, c'est clair. En tout cas, je te remercie pour le temps que passé avec nous pour nous expliquer ça. On voit, hein, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. Tu donnes plein d'outils, il y a des méthodes pour traiter tous les aspects. Tu dis bien d'où, sur quoi on travaille, sur quoi on avance, etc. C'est vraiment très... on voit le sens de la pédagogie. C'est là aussi on voit les côtés enseignants qui... pédagogie, formateur, coach. En tout cas...
les anciens profs.
Merci beaucoup pour le temps passé avec nous. C'est très intéressant. Bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis écoutez, maintenant, on va se dire au revoir. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je te remercie encore, Raphaël, pour le temps passé avec nous. Ciao, ciao.
Merci Bertrand. Salut à tout le monde.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.